8 novembre 1620, les armées protestantes de Bohême sont défaites par les troupes habsbourgeoises catholiques, mettant un coup d'arrêt définitif à la liberté de confession en pays tchèque et amorçant le processus de la contre-réforme. Avec Nicolas Richard, doctorant français en co-tutelle entre Paris et Prague, Anna Kubeshta s'est intéressée à son sujet de thèse consacré au clergé catholique dans la période qui a suivi cette fameuse bataille. Nous vous proposons la première partie de cet entretien.
Chapitre de l'histoire.
Nicolas Richard, vous êtes doctorant et vous venez de passer une année dans le cadre de votre thèse au CEFRES à Prague. Votre thèse, vous la faites en co-tutelle entre l'Université Charles de Prague, sous la direction du professeur Martin Neyerli, et l'Université de Paris-Sorbonne, où votre directeur, c'est le professeur Olivier Chaline. Et alors, vous vous intéressez dans vos travaux de recherche aux conséquences de la Montagne Blanche en Bohême. Alors, tout d'abord, première question, pourquoi avoir choisi cette époque et cet événement en particulier ?
Alors, pour être exact, ce qui m'intéresse et n'est pas tout à fait les conséquences de la Montagne Blanche, mais plus exactement l'action du clergé paroissial dans la période qui va de l'épiscopat du cardinal Harrach, donc à partir de 1623, jusqu'à la mort de Mgr Breuner en 1710. Et là, c'est de voir comment, d'une population qui était à 90% non catholique, on en est venu, dès la fin du XVIIe siècle, à une population qui est très majoritairement catholique, et non pas simplement catholique parce que le catholicisme est la seule religion autorisée, mais aussi catholique parce que c'est la religion qui correspond à leurs convictions personnelles, même s'il reste bien sûr des poches de protestantisme. Donc c'est un basculement extraordinaire qui est absolument sans exemple dans l'Europe du temps.
Alors justement, longtemps dans l'historiographie tchèque, on a parlé de la période des ténèbres, on appelle ça temno en tchèque, pour l'après-Montagne Blanche. En gros, le pouvoir habsbourgeois et catholique reprenait la haute main sur la bohème rebelle, hérétique, étouffée dans l'œuf toute velléité de dissidence. En tout cas, ça a été un peu l'interprétation qui a été faite à partir du moment du réveil des nationalités au XIXe siècle. Et puis les communistes eux-mêmes se sont pas mal identifiés justement et se sont un peu réappropriés les hussites, l'histoire hussite. Alors aujourd'hui, est-ce que ce clivage un peu noir et blanc est dépassé ? Est-ce qu'on peut étudier justement l'après-Montagne Blanche avec plus de sérénité ?
En fait, on peut bien sûr étudier la place de la Montagne Blanche dans l'esprit national tchèque depuis le XIXe jusqu'à nos jours. Mais c'est un sujet qui est un sujet en soi, et c'est un sujet qui a des historiens, et qui a des historiens qui sont extrêmement talentueux, mais ce n'est pas du tout l'objet de ma thèse. Il m'est donc très difficile de juger et de savoir si actuellement, dans la société tchèque, la Montagne Blanche soulève encore les passions ou ne les soulève plus. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'une fois j'étais à un dîner avec le directeur d'une entreprise tout à fait importante, et quand je lui ai dit que je travaillais sur le XVIIe siècle, il a fait les gros yeux et il m'a dit que c'était horrible parce que c'était l'époque où les chariots des hussites avaient été vaincus par les Allemands à la Montagne Blanche. Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu le moindre chariot hussite à la Montagne Blanche. Ils avaient sans doute tous disparu à la bataille de Lipany deux siècles avant. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a beau être directeur d'une belle entreprise, ça ne dispense pas d'apprendre un peu l'histoire et que c'est l'ignorance qui permet toutes les manipulations. D'un autre côté, il est certain que dans l'historiographie tchèque, il y a, c'est légitime, c'est normal, un certain nombre d'oppositions qui ne sont pas simplement des oppositions purement intellectuelles, mais qui reflètent aussi des positions politiques. Alors en tant que Français, j'ai la chance de me sentir tout à fait étranger à ces polémiques. C'est une chance, c'est aussi une difficulté, parce que comme je n'ai pas baigné depuis mon enfance dans l'histoire tchèque, j'aurais beau faire, je ne serais jamais aussi compétent et aussi érudit qu'un historien tchèque sur sa propre histoire.
Alors justement, après cette bataille, cette fameuse bataille de la Montagne Blanche, un peu, les églises baroques recouvrent la Bohême un peu d'un blanc manteau, pour paraphraser un chroniqueur de l'époque romane. Au XVIIe siècle, on pourrait d'ailleurs y ajouter un blanc manteau tissé d'or, hein, au vu de la profusion des richesses dont l'église catholique les remplit. Alors le baroque, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, hein, de la contre-réforme. Au quotidien, justement, comment le paroissien de Bohême vit-il cette contre-réforme ?
Les églises baroques sont des documents historiques comme les autres, peut-être plus agréables à regarder que des papiers d'archives à moitié déchirés et avec une paléographie difficilement déchiffrable. Mais de toute façon, ces églises baroques, il ne faut pas les séparer de la civilisation qui les a produites. Votre comparaison avec Raoul Glaber, qui parle de Candidam Ecclesiarum Vestem Indueret, pour désigner le grand mouvement de reconstruction et d'embellissement des églises en France et en Italie autour de l'an 1000, cette comparaison semble assez exacte parce qu'on assiste dans la bohème baroque à un certain nombre de ces vagues de reconstruction d'églises. Tout d'abord à la fin de la guerre de 30 ans, après les destructions énormes qu'a connues la bohème, il est nécessaire de réparer les églises. Ensuite, au début du XVIIIe siècle, puis tout au long du XVIIIe siècle, on a des vagues et des vagues de reconstruction d'églises, ce qui fait qu'actuellement, quand on parle du baroque et qu'on pense aux églises baroques bohèmes, on ne parle pas vraiment du baroque du XVIIe siècle, mais surtout du XVIIIe siècle, puisque la plupart des églises baroques que nous voyons aujourd'hui sont des églises du XVIIIe siècle. Autant celles du XVIIe siècle répondaient à une nécessité, celle de reconstruire un patrimoine qui a été détruit pendant la guerre, autant celles du XVIIIe siècle sont le fruit d'une émulation entre les communautés, entre les seigneuries, pour toujours reconstruire une église plus belle que celle du voisin. Donc il est certain qu'il s'agit vraiment là d'un phénomène tout à fait comparable à celui que décrit Raoul Glaber.
Alors justement, après, au niveau simplement du paroissien moyen, comment est-ce que justement les catholiques reconquièrent finalement leur brebis perdue?
Voilà, alors si on revient à nos églises, quelle est la place du paroissien dans ces églises? Est-ce que le paroissien se voit imposer une architecture qui lui est étrangère, qui est d'origine italienne, et que l'église catholique, soutenue par des magnats et des grands seigneurs étrangers, fait reconstruire dans les villages et les villes de Bohême? Ou est-ce que ces églises sont une création collective de toute la population? Alors, pour ça, il faut voir qui paye pour ces églises. Qui paye pour ces églises, ça permettra de voir à quel point les gens s'impliquent peu à peu dans la construction de l'église, qui est le symbole tangible dans la pierre de la religion. Alors, le peuple des campagnes n'a certainement pas les moyens de payer le gros œuvre, n'a pas du tout les moyens de payer les murs, les toits, etc. Et les églises, de ce point de vue-là, sont faites aux frais du Seigneur, même si c'est le plus souvent la corvée qui fournit la main-d'œuvre nécessaire pour les murs et pour les réparations de toits. Mais ce qui est certain, c'est que à l'intérieur de ces églises, on trouve tout un mobilier, des ornements qui ont la plupart du temps disparu, mais des objets qui sont en bois doré avec du plâtre, en matériaux non nobles, et ces objets, en règle générale, quand on regarde les archives et les inventaires paroissiaux, c'est le résultat de donations faites par les paroissiens. Les paroissiens n'ont pas les moyens de construire des chapelles entières, mais ils ont les moyens de donner des objets, et c'est sans doute ce qui explique la profusion de ces petits objets en bois dans les églises de campagne. On peut regarder en fait le paysage baroque comme une création collective, parce que c'est le seigneur qui dresse dans la seigneurie les grandes directions, c'est lui qui fera faire les gros œuvres, mais pour les petites chapelles, pour les petites croix de carrefour et tout ça, on s'aperçoit que qui paye, ce sont soit les communautés locales, soit les principaux habitants des villages. Or, quel est le rôle de l'Église dans ces constructions de croix, dans ces constructions de chapelles, etc. On s'aperçoit, à partir environ de l'épiscopat de Monseigneur de Waldstein, donc là on est dans le troisième tiers, ou plutôt même dans le quatrième quart du XVIIe siècle, on s'aperçoit que désormais l'archevêque et les autorités ecclésiastiques cherchent à limiter ces constructions, qui sont des constructions qui sont faites sans licence et sans autorisation de l'archevêque, par les petites gens des campagnes, par les communautés locales, etc. Le clergé paroissial, en fait, cherche beaucoup plus à encadrer des phénomènes de construction religieuse qui prouvent qu'il y a vraiment là l'adhésion à une certaine vision de la religion. Il cherche beaucoup plus à encadrer, à freiner ces constructions plutôt qu'à les provoquer. Donc là, on voit qu'il y a eu, toujours dans ce paysage baroque, un basculement très clair, et qu'il ne s'agit pas de l'imposition de quelque chose d'étranger, mais d'une création collective où chacun joue son rôle, donc la masse de la population, la seigneurie et l'Église.